Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mariage qui a mal tourné, d'une dette qui n'arrive pas à être remboursée et de la haine d'un beau-père pour son ex-beau-fils qui a fait souffrir sa fille. Des mésaventures humaines, même très humaines. Mais en parlant de cette affaire, nous dévoilerons également la manière dont le comportement économique des Romains, au moins parmi les membres de l'élite, était conditionné par leurs attentes sociales. Par attente sociale, notion qui sera au cœur de cette séance, j'entends les idées que nous avons de la façon dont une personne de notre milieu social va se comporter et de la façon dont nous-mêmes nous devrions nous comporter. À Rome, nous le verrons, outre l'argent, la réputation était tenue en grande valeur. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter les protagonistes de cette affaire. Il s'agit de Cicéron, de sa fille Tullia, née du mariage avec Terentia, et de l'ancien mari de Tullia, Publius Cornelius Dolabella, qui dans l'affaire est le méchant. Né en 70 avant Jésus-Christ, il avait donc 26 ans au moment des faits que nous allons examiner. Il était issu de l'illustre gens Cornelia, de la branche de Dolabella. C'est typiquement un représentant de la jeunesse dorée de Rome, comme Marc-Antoine, dont nous allons reparler brièvement, et Claudius. Déjà marié et divorcé avant ses 20 ans, donc il avait déjà un mariage derrière lui à 20 ans, Dolabella épouse en 50 avant Jésus-Christ Tullia, la fille de Cicéron, qui est plus âgée que lui. Cicéron préparait en effet un troisième mariage pour sa fille lorsque celle-ci s'éprend de Dolabella et décide de l'épouser. Elle avait épousé à 13 ans un Caius Calpurnius Pison Frugi. Donc ce nom, le frugal Frugi, le frugal qui meurt tout de suite. En 56 avant Jésus-Christ, elle épouse en seconde noce Furius Crassipes, mais il divorce en 51. Donc, en 50, elle décide d'épouser Dolabella. De cette union naissent deux fils, deux enfants, dont on ne sait presque rien. Mais Dolabella n'est pas du tout le beau-fils que Cicéron aurait souhaité pour sa fille bien-aimée. Capricieux et volage, il dilapide la dot de son épouse. Et ici, on peut faire un rapprochement avec le premier Marie de Tullia, je vous l'ai dit, il s'appelait Pison le Frugal, et c'est vraiment ironique parce que Dolabella est complètement à l'opposé. Tullia et Dolabella divorceront après 4 ans seulement de mariage, en 46 avant Jésus-Christ. Et Tullia mourra l'année suivante, en 45. Donc c'est une affaire assez, disons, sombre, dramatique, triste, au fond. Une femme de 30 ans, dirait Balzac. Le plus grand juriste de l'époque, Servius Sulpicius Rufus, le plus grand juriste, donc les juristes, ils ont des émotions, nous l'avons déjà dit, écrit à son ami Cicéron une lettre de consolation devenue célèbre, profonde et en même temps effrayante. Permettez-moi de vous en lire quelques extraits. C'est Servius Sulpicius Rufus qui écrit à son ami d'enfance Cicéron. La mort de Tullia, votre fille, en 45, dont on vient de me donner la nouvelle, devait me porter en coupe rude et pénible, et je m'en suis affligé comme d'un malheur commun. Si j'eusse été à Rome, j'aurais couru près de vous et je vous aurais dit ma douleur. Sans doute, il y a quelque chose de triste et d'amer dans ces consolations qui nous viennent de nos proches et de nos amis, tout empreinte du sentiment de peine qui les inspire, qu'on ne peut donner sans fondre soi-même en larmes et sans montrer le besoin d'être affermi plutôt que la force de soutenir les autres. Je veux pourtant vous soumettre un peu de mots, quelques réflexions qui me sont venues. Je suis sûr qu'elles ne vous ont pas échappé, mais dans le trouble de votre âme, vous n'en avez pas été assez frappé, peut-être. Je veux vous faire part d'une réflexion qui m'a été d'un grand secours et où vous puiserez peut-être quelques forces. Je revenais d'Asie. Je me mis à considérer au loin les pays qui m'environnaient. Derrière était Égine, devant Mégare. À droite, le Pirée, à gauche, Corinthe. Ces villes, autrefois si florissantes, n'offraient à mes regards que désolation et ruine. Cette vue me fit faire un retour sur moi-même. Et quoi, me dis-je, pauvre espèce que nous sommes, nous dont la loi est de vivre comparativement si peu, jeterons-nous toujours les hauts cris en voyant mourir ou souffrir un de nos semblables, quand sur un seul point, tant de cadavres, de villes gisent amoncelés. Ne voudras-tu point, ô Servius, descendre en toi-même et reconnaître la condition de ton existence? Croyez-moi, Cicéron, cette réflexion ne fut pas pour moi d'un médiocre effet. Placez le même spectacle devant vos yeux et faites en vous-même l'épreuve. Une foule d'hommes illustres ont péri. L'Empire a perdu sa grandeur et sa force. Il n'est pas une province qui ne soit ébranlée jusqu'à ses fondements. Et quand le faible souffle qui animait une faible femme vient s'éteindre, vous en ressentez une telle émotion? Ah, rappelez-vous ce que vous êtes, mon cher Cicéron. N'oubliez pas que c'est de vous que le reste des hommes est accoutumé à recevoir l'impulsion et l'exemple. Il n'y a pas de chagrin que le temps ne diminue et n'adoucisse à la longue. Eh bien, pour vous, c'est une honte d'attendre votre guérison du temps et de ne pas la demander à la raison. C'est une lettre qui contient beaucoup d'échos, de résonances, de pensées qui nous touchent et d'autres qui nous effraient. Avec Dolabella, Tullia vit donc seulement une poignée d'années. Mais quelles années ? Avant et après le divorce, la vie de son mari Dolabella est vraiment picaresque. Lorsqu'il était encore marié avec Tullia, en 49 avant Jésus-Christ, criblé de dettes, il rejoint le camp de César dans sa lutte contre Pompée. Dolabella reçoit le commandement de la flotte de l'Adriatique, mais il se montre totalement inepte. Après la victoire de César à Pharsale, Dolabella rentre en 47 à Rome et est élu tribun de la plèbe. Vous voyez, il fait carrière. Il tente ainsi de faire passer une loi sur quoi, vous pourriez vous demander, c'est sur l'abolition des dettes. Et bien entendu, il était criblé de dettes, donc il pense d'abord à sa situation personnelle. Vous savez, il n'y a jamais, à aucune époque, des lois personnelles faites pour ceux qui sont au pouvoir. Donc, et Marc-Antoine, le futur adversaire d'Octavien, alors maître de cavalerie de César, s'oppose à Dolabella et le jour du vote de ce plébiscite, une émeute tourne au bain de sang. Dolabella manque d'être tué et pour exacerber davantage les esprits, on dit qu'Antonia, eh oui, l'épouse d'Antoine, aurait eu une liaison avec Dolabella. Celui-ci, je vous le rappelle, en 47, au moment de son tribunal de la plèbe et de son projet de loi sur l'abolition des dettes, était encore marié à la fille de Cicéron. Après d'autres vicissitudes et les divorces, César accorde à Dolabella pour l'an 44 le consulat suffète, c'est-à-dire que Dolabella serait entré en charge non pas au 1er janvier ou au commencement de l'année, serait pas entré en charge, mais il serait entré en charge en substitution d'un des consuls déjà en office. Et c'est alors que la trajectoire humaine de cet homme frivole et désinvolte croise la grande histoire. Nous sommes en mars 44 avant Jésus-Christ, aux Ides de Mars. Dolabella s'empare de manière anticipée des faisceaux et des insignes consulaires qui lui étaient promis par César, qui vient d'être assassiné. Et le diriez-vous, tout de suite, Dolabella, qui était le protégé de César, approuve le meurtre de César et se joint au tyrannicide. Ensuite, autre pirouette, il rejoint le champ de Marc Antoine, qui se présente en continuateur de l'œuvre de César. Les mois qui suivent sont tumultueux. Marc Antoine, c'est la monnaie au centre. C'est entre autres le moment du retour à Rome du petit-neveu de César, c'est-à-dire Octavien, qui marque le commencement d'une nouvelle guerre civile. La guerre ne se terminera qu'après presque 15 ans, avec Octavien pour vainqueur, transformé en Auguste. Et c'est justement dans les mois convulsés qui suivent l'assassinat de César que Cicéron s'adresse à son ami Atticus pour avoir son avis et son appui afin de récupérer la dot que Dolabella devait lui restituer. Dolabella, qui était entre autres le consul en fonction. Alors, disons-le ouvertement, Cicéron était dans cette fin de l'année 44 dans une situation désastreuse. Financièrement, il se trouvait un manque de liquidité. En général, Cicéron était un homme des moyens qui avait profité de son mariage avec la riche Terentia, de ses services en tant qu'orateur et de son mandat de gouverneur de Cilicie. Il collectionnait les immeubles et accordait beaucoup d'attention à leur rénovation et leur ameublement, la soupellex dont nous avons parlé. Ces villas, la campagne, lui permettaient de suffire à ses besoins de produits alimentaires et il tirait des revenus appréciables des locations urbaines. Mais en 1944, il était à court de liquidités, endetté, ce qui est pire, complètement aux abois du point de vue politique. Et c'est, rappelons-le, le moment, dont le moment dans lequel se placent les événements dont nous sommes en train de parler, c'est le même moment où Cicéron prononça les Philippiques, une série de 14 discours attaquant de plus en plus violemment Marc Antoine. Personnage ici portraité. Son propos, le propos de Cicéron, aura été une restauration de la vieille forme politique républicaine sous le contrôle du Sénat. Mais désormais, la société romaine demandait des hommes forts et des armées, et Cicéron n'avait pour se battre contre eux que sa voix et ses écrits. Sa tête d'orateur et ses mains d'écrivain seront l'année suivante rapportées comme trophée à Marc Antoine. C'est dans ces derniers mois de sa vie, dans ce tourbillon, qu'il souhaite récupérer la dot que son ancien beau-fils Dolabella doit lui restituer. Alors, la dot était normalement offerte par le père de famille à son beau-fils au moment du mariage. Donc, ce n'était pas seulement le père de famille qui pouvait constituer une dot, mais d'habitude, c'était lui. Vous voyez ici, dans ce relief, une scène de mariage. En cas de divorce, la dot devait être rendue à l'ancienne épouse ou à son père. De fait, comme je viens de le dire, Tullia était morte l'année précédente, en 1945, à 31 ans, et donc c'était à Cicéron que la dot revenait. Il semble que Dolabella, comme il était d'ailleurs d'usage, avait promis la restitution en trois tranches. Le premier versement était prévu pour l'année 45, il avait été payé. Le deuxième était prévu pour 44, mais il n'avait pas été payé. Et le troisième n'était encore parvenu à l'échéance. Donc, au moment des faits que nous sommes en train de discuter, il y avait déjà une non-exécution du contrat de restitution de dot, parce que le deuxième versement aurait déjà dû être réglé, mais il ne l'avait pas été. Mais dans un premier moment, et c'est intéressant même pour le cadre de notre discours, Cicéron prend avec légèreté le retard de Dolabella. Par exemple, lorsqu'il écrit à Atticus, c'est l'autre personnage qui est derrière notre récit, c'est parce que Cicéron avait cet ami qui lui était lié si profondément. Et l'amitié, c'est quelque chose à laquelle on ne renonce pas. Et donc, c'était grâce à l'amitié de Cicéron pour Atticus qu'on a ce récit, parce qu'il a relaté et il lui a demandé des avis, nous allons le voir. Et donc, c'est pour ça, parce que nous avons la correspondance entre Cicéron et Atticus, que nous sommes au courant de cette affaire. Alors, je vous disais, au début, même si Dolabella n'avait pas payé, donc Cicéron se montrait assez, il n'était pas trop soucieux d'avoir son argent. Il dit « j'attends », il écrit à Atticus. Ce sont des jeux de mots, ce sont des blagues assez compliquées à comprendre, donc ce n'est pas forcément très rigolo, mais on comprend l'esprit. « J'attends avec impatience de lire le discours d'Octave. » Donc, vous voyez, c'était Octave qui était revenu en Italie. « Et des nouvelles, s'il y en a. » « Dites-moi surtout si Dolabella fait sonner les pièces ou si, à ma considération, il veut encore abolir les dettes. » Donc, vous vous souvenez, il avait proposé il y a 3 ans une loi pour l'abolition des dettes, donc il était le consul en charge, en fonction. Donc Cicéron dit peut-être qu'il va proposer à nouveau une loi pour l'abolition des dettes, à ma considération, donc, parce qu'il me doit la restitution de la dot. Mais à la fin de cette même année 1944, ici on est en mai, le ton change dramatiquement. Cicéron voulait à tout prix récupérer son argent. D'abord parce qu'il en avait besoin, mais aussi parce qu'il détestait Dolabella pour avoir rejoint le champ de Marc-Antoine, donc de s'être rangé avec son pire ennemi. C'est le document principal que nous devons examiner. n'impute pas à ma paresse de ne pas t'écrire de ma main. Et pourtant, si ce n'est paresse, quelle excuse te donnerais-je? J'en ai pas d'autre. Mais n'ai-je pas moi-même aussi reconnu dans tes lettres la main d'Alexis? Passons donc et venons-en au fait. Alors là, vous voyez, après on va continuer dans la lecture, mais c'est toujours extraordinaire de voir que même dans une situation désespérée comme celle de Cicéron, il maintient vive les courtoisies. Donc, au tout début, et bien évidemment, Atticus a dû se plaindre du fait que la lettre qu'il avait reçue de Cicéron n'avait pas été écrite par Cicéron lui-même, mais par un scribe auquel il l'avait dictée. Et donc Cicéron lui répond, sa réplique est « Oui, mais j'avais reconnu dans tes lettres la main de ton secrétaire, donc c'est la même chose. » Donc ce sont des courtoisies qu'on n'apprécie pas assez, je pense. Mais après, la lettre est poursuit, comme il l'a dit, « Passons donc et venons-en au fait. » Et nous le faisons nous également. Si la conduite de Dolabella n'avait pas été très déloyale avec moi, peut-être douterais-je encore si je dois être plus rémissif avec lui, donc si je dois continuer à le ménager, ou le poursuivre avec toute la rigueur du droit. Mais à présent, je me réjouis d'avoir l'occasion de lui faire sentir et de montrer à tout le monde qu'il n'y a plus rien de commun entre lui et moi. On saura que je le hais, et pour mon compte et pour la République, depuis que je l'ai vu non seulement déserter pour de l'argent la défense de la République, à laquelle il s'était d'abord associé par mes conseils, mais encore se déchaîner pour la détruire. Tu me demandes, donc il s'adresse à son correspondant Atticus, qui lui avait écrit, pour lui demander des instructions pour le moment de l'échéance. Donc, c'est ça, la troisième échéance, parce que la deuxième était déjà passée. Premièrement, je voudrais que les choses s'arrangeassent de façon que je puisse être à Rome sans que cela paraisse étrange. Là-dessus, pourtant, comme surtout, je ne ferai que ce que tu me conseilleras. Du reste, j'entends que l'affaire soit poussée avec la plus grande vigueur. Si une mise en demeure des garants risque d'être assez mal vue, j'aimerais que tu examines ce que voudrait l'idée suivante. Pour mettre en demeure, pour sommer les garants, nous pouvons impliquer les procurateurs de Dolabella. Des faits, je suis sûr que ces procurateurs n'engageront pas le procès. Car s'ils l'engagent, j'ignore pas que les garants sont libérés de leurs obligations. On va revenir sur tous ces points. Mais à mon sens, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée et qu'il est conforme à ma dignité de faire valoir mes droits en lui épargnant l'ignominie extrême. Soit assez bon pour me donner ton avis sur tout cela. Je ne doute pas que tu ne conduises les choses avec tout le ménagement convenable. Parlons maintenant des affaires publiques. Donc la lettre continue, mais nous arrêtons sur cette partie qui concerne plutôt une affaire privée de Cicéron. Alors, après l'exorde que nous avons déjà commenté, Cicéron entre dans l'affaire et il nous propose un cadre assez clair des motifs qui l'ont poussé à mettre fin à ses atermoiements. D'une part, c'est le fait que Dolabella soit un défaut de paiement lui permet de montrer à tous qu'il a rompu humainement et surtout politiquement avec son ancien gendre. Donc il y avait aussi ce côté. Donc il voulait qu'on comprenait qu'il avait rompu humainement, mais surtout politiquement avec Dolabella. Mais le problème est que Cicéron est enfermé dans un réseau justement d'attente sociale. De quel genre ? Attente sociale, de quel genre ? Il sait que même s'il peut avoir tout à fait les droits d'agir pour recouvrer sa créance, les attentes sociales, pour quelqu'un de son milieu, voulaient qu'il agisse avec une grande prudence envers le débiteur, pour ne pas passer moralement, socialement, bien entendu, pas du point de vue du droit, mais moralement ou socialement, pour ne pas passer comme celui qui est en tort. À une autre occasion, 25 ans plus tôt, donc il ne s'agit pas de, disons, d'attente sociale ponctuelle, circonstancielle, déjà 25 ans plus tôt, en 69, en défendant Quinctius, Cicéron avait précisément blâmé les comportements trop agressifs du créancier. Donc, il était bien entendu l'avocat du défendeur et il blâmait le comportement trop agressif du créancier. Je vous le lis, alors même qu'ils sont ouvertement victimes de manœuvres frauduleuses, les gens de bien, le terme, c'est viriboni, c'est un terme sur lequel on pourrait discuter pour des années sans aller plus loin de ce que nous comprenons tout de suite, qu'est-ce qu'est un viribonus. Donc les gens de bien n'en viennent cependant à cette extrémité, c'est-à-dire de poursuivre en justice et surtout de faire confisquer les biens, mettre en vente aux enchères le bien du prévenu, n'arrive à cette extrémité qu'avec crainte et précaution, contrainte par les nécessités à leur corps défendant. Il faut que la partie adverse ait été défaillante à plusieurs comparutions, il faut qu'ils aient été souvent trompés et joués, car ils considèrent, les gens de bien, ils considèrent tout ce qu'il y a de grave dans l'acte de faire afficher les biens de l'adversaire pour le mettre aux enchères. Un honnête homme ne veut pas, même quand il est dans son droit, égorger un citoyen. Il préfère que l'on s'en souvienne qu'il a épargné celui qu'il pouvait perdre plutôt que de perdre celui qu'il pouvait épargner. Donc là derrière, il faut le comprendre, c'est très compliqué pour nous, mais là derrière, il y a toute une anthropologie politique. Donc il y a toute une position, une philosophie, mais une forme de vie, un système, une constellation de valeurs qui fait que Cicéron, dans ses œuvres politiques, défend la même position. Nous sommes tous dans une société avec des liens, on ne peut pas nuire à nos semblables. Donc c'est ça l'idée d'être dans une société. Donc vous la voyez comparaître à plusieurs endroits, dont là vous voyez ici, il ne faut pas égorger un citoyen, et c'est mieux qu'on se souvienne qu'on a épargné celui qu'on pouvait perdre plutôt que de perdre celui qu'on pouvait épargner. Alors, dans le cas de Dolabella, la situation était rendue encore plus compliquée par le fait qu'il était consul en exercice et qu'il ne pouvait donc pas être contraint de se présenter en justice. De plus, il était absent de Rome au moment de la lettre. C'est une lettre, je ne l'ai pas dit, mais la lettre que nous sommes en train de lire est du mois d'octobre de 44, donc Dolabella, qui était consul en 44, mais il était parti de Rome pour rejoindre la Syrie, où il aurait dû prendre service en tant que gouverneur de la Syrie. Donc il était absent, mais il était absent pour une raison, disons, d'intérêt public. Mais il avait laissé à Rome des procurateurs, donc des mandataires qui géraient ses affaires. En plus, sa promesse de restitution de la dot était garantie par des garants, des tiers garants, qu'on appelle en droit romain des sponsores. Donc c'est un terme qu'on retrouve pour indiquer les mécènes d'une initiative. Aujourd'hui, on parle souvent de sponsores ou sponsors. Donc ce sont des garants. Et il y a là un principe qu'on va retrouver, mais je l'indique ici déjà parce que vous voyez par écrit. Le problème, c'est aussi que si on s'attache au procurateur, donc si on les somme en justice, le problème, c'est qu'il y a un effet qu'on appelle un effet de novation de l'obligation, donc les garants vont être libérés de leurs obligations de garantie. Donc, si on engage une procédure avec les procurateurs, on risque de perdre la garantie de tiers garants. Donc, c'est une situation à la fois où il n'y a pas le débiteur principal n'est pas présent, il a laissé des procurateurs, c'est bien, et il a laissé des tiers garants, mais le rapport, la relation entre procurateur et garant est assez compliqué du point de vue juridique, du point de vue de la meilleure voie d'action. Alors, Cicéron veut donc trouver une voie qui concilie pas seulement les difficultés juridiques inhérentes à cette affaire, mais aussi les difficultés juridiques avec le cadre plus large des attentes sociales. Alors, l'idée de Cicéron est d'agir par étapes. Alors, il dit à Daticus que la première chose à laquelle il faut veiller, c'est de se trouver à Rome. Il faut que Cicéron soit sur place pour mieux gérer l'affaire. Mais déjà, il faut que sa présence à Rome ne soit pas perçue comme déterminé justement par cette affaire. Il faut que sa présence soit presque due au hasard. Parce que déjà, ce serait mal vu qu'il revient à Rome pour une affaire d'argent. Mais il dit à Ticus, je peux très bien faire ce que tu me conseilleras. Ensuite, le point de départ, ce sont justement les sponsores, les garants. Parce qu'il comprend que pour avoir l'argent, le levier, le point d'appui, ce sont les garants. Toutefois, il y a là encore un problème d'attente sociale, et vous, je pense que vous êtes en train de comprendre, de développer dans votre esprit la logique de ce système. Alors, vous avez un débiteur principal qui laisse des procurateurs, et il y a des garants. Donc déjà, c'est un peu mal vu de sommer en justice le débiteur principal. Dans ce cas, on peut même pas le faire parce qu'il est absent. Est-ce qu'on peut s'en prendre au procurateur? C'est déjà compliqué. Alors, vous voyez, est-ce qu'on peut sommer en justice les sponsores? Alors, le problème, c'est que sommer les garants, les interpeller, leur enjoindre de payer, le mot latin, c'est « sponsores appellare », signifiait contester au grand jour la fidesse du débiteur principal. Donc, je pense que vous comprenez la question. Si je demande au garant de mon débiteur de payer, ça implique que j'ai aucune confiance dans mon débiteur principal. Donc, il y a là une sorte d'insulte, de manque de confiance. Alors, est-ce qu'on peut avoir, se méfier, ne pas avoir confiance dans quelqu'un qui appartient à notre propre milieu social. Donc c'est un peu ça l'enjeu. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas demander le paiement aux garants est un principe qu'on trouve souvent dans les sources romaines, et notamment dans cette déclamation mineure, un genre littéraire assez intéressant. Vous voyez, as-tu agi en justice ? Cette déclamation, c'est une sorte de plaidoyer fictif, et donc qui est fictive, mais en même temps, c'est une mine inépuisable. Donc, nous avons ici deux collègues espagnols qui ont beaucoup étudié ce type de texte. C'est une mine inépuisable parce que nous avons des plaidoyers où on voit très bien quels sont les arguments qu'on peut vraiment utiliser devant un juge. Et ici, c'est un petit extrait, vous voyez, as-tu agi en justice avec celui à qui as-tu donné l'argent ? Alors, c'est-à-dire, on demande à l'adversaire, mais est-ce que tu as déjà demandé, as-tu déjà sommé en justice le débiteur principal ? Pour aucune autre raison, les créanciers ne peuvent s'adresser au garant sans être blâmé, vous voyez, les attentes sociales, que s'il ne peut pas recevoir le paiement du débiteur. Donc il faut d'abord s'adresser au débiteur. Tu exiges ta créance sans humanité, inhumane, sans humanité, mais je pense que ce n'est pas exactement l'humanité, bon, ça c'est un peu trop, humanitas au sens sans respect des attentes sociales, sans savoir-faire, sans la souplesse qu'il faut utiliser dans nos rapports à autrui. Cette souplesse, cette élégance d'esprit qui est au fond quelque chose dont nous aurions très besoin et qui nous fait cruellement défaut. Et c'est ça que cet adverbe implique. Et après, tu demandes injustement. Donc, ce n'est pas un droit que ça relève, mais c'est du point de vue, disons, plutôt personnel et social. Alors, nous y reviendrons sur ce type de principe, car nous le retrouverons exprimé aussi par un juriste, mais ce sera dans quelques minutes à la fin de notre heure ensemble. Cicéron exprime cette situation, la situation de quelqu'un qui ne peut pas agir en justice, avec un mot grec, dysopian. Quand Cicéron passe au grec dans ses lettres, cela marque toujours un point saillant. Donc, lorsqu'il passe au grec, il faut redoubler notre attention. C'est presque toujours un couple de maîtres qui dit tout. Dans ce cas, par le grec, Cicéron exprime avec la subtilité des personnes instruites qu'il ferait mauvaise figure s'il allait solliciter les garants, parce que ce serait une offense trop grande envers Dolabella. Dysopian, c'est un mot qui a en lui la racine du verbe orao, voir. Donc, il faut sauver les apparences. Donc, il ne s'adressera pas directement au garant, il se tournera vers le mandataire de Dolabella, les personnes peut-être désaffranchies, les procurateurs chargés de gérer ses intérêts pendant qu'il sera en Syrie. Alors, c'est un point délicat de la lettre, nous allons y revenir, qui a suscité d'infinies discussions entre les commentateurs et qui ont pensé que le texte de la lettre était mal transmis, corrompu, et qu'on devait le corriger. Donc, je vais vous donner quelques points de repère bibliographiques. Un grand romaniste est une collègue regrettée qui a écrit un très, très beau article sur cette lettre, donc vous pouvez aller un peu plus loin sur ce point. Donc je vous propose ma propre interprétation, un peu différente, qui conserve pratiquement intacte la leçon transmise par les manuscrits. La leçon, j'entends le texte tel qu'il a été transmis par les manuscrits. De quoi est-ce que je parle? C'est de ce mot-ci. Dans le manuscrit, on lit procuratorem et ce mot, on veut le changer, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça voudrait dire. Mais donc, je propose de changer seulement la lettre finale procuratorem au singulier, le changer au pluriel. Pourquoi? Parce que procuratores est impliqué, c'est le, disons, le terme qui est impliqué par ce pronom démonstratif, illi au pluriel masculin. Donc, c'est exactement, ça démontre qu'il nous faut ici un nom au pluriel. Mais c'est surtout le ça c'est une correction qu'on a souvent proposée et surtout je pense qu'il faut garder à tout prix ce terme introducere. Je pense que introducere c'est un peu le cœur de cette lettre parce que son sens ici dans le contexte est celui de faire entrer en scène, impliquer. Donc il faut impliquer les procureurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Cicéron a décidé d'impliquer les procurateurs de la Bella, mais apparemment, on le lit ici, non pas pour leur demander de payer eux-mêmes et pour les sommer en justice, mais il va les aborder, prendre contact avec eux, c'est ça, introduire, les faire entrer en jeu, pour les avertir qu'il va s'adresser au garant. Donc vous voyez, il y a, les protagonistes sont le débiteur principal, il ne va pas s'adresser au débiteur principal, qui d'ailleurs n'est pas présent en Rome. Il ne va pas demander le paiement aux procuratores, mais il va demander aux procuratores, il va avertir les procuratores qu'il est en train de s'adresser au garant, donc à la troisième ligne. Pourquoi ça? Alors, Cicéron sait que c'est un coup de dé, car si les procurateurs auxquels il va s'adresser en première ligne d'abord, si les procurateurs avertis par Cicéron décident d'aller au procès, donc si, au moment où Cicéron va leur dire « bon, comme je n'ai pas reçu de la part de Dolabella le paiement, donc je vais le demander au garant », si à ce moment-là, les procurateurs vont répondre à Cicéron, nous contestons ta demande et donc nous sommes prêts à aller en justice au nom de Dolabella, donc de nous engager dans un procès au nom de Dolabella, ça crée un problème assez compliqué auquel j'ai déjà fait référence, c'est-à-dire que les garants seront libérés. Parce que, en droit romain, c'est un très beau sujet peut-être pour l'année prochaine de vous parler de la procédure formulaire et comment fonctionne vraiment un jour à la cour à Rome. C'est assez compliqué, par exemple, si on demande, si on engage une procédure avec les procurateurs, ici, il y a un effet de novation de l'obligation, ils seront libérés. Et c'est une chose que Cicéron ne veut pas à tout prix qu'il se produise, parce qu'il sait qu'avoir les garants, c'est pour lui très important, parce que les garants sont son dernier espoir. Mais alors, pourquoi Cicéron prend ce risque? Il a bien fait ses calculs, c'est ce qu'il imagine, Il explique à Atticus, il est sûr, donc j'aimerais que tu examines ce que voudrait l'idée suivante. Pour mettre en demeure les garants, nous pouvons impliquer le procurateur de Dolabella. De fait, je suis sûr, c'est ce qu'il pense, que ces procurateurs n'engageront pas les procès, car s'ils engagent, je n'ignore pas le problème, c'est-à-dire que les garants sont libérés de leurs obligations. Mais, c'est l'idée de Cicéron, à mon sens, il serait déshonorant, encore un mot moralement chargé, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée, pas seulement qu'ils refusent de payer une dette du débiteur principal, mais c'est une dette cautionnée, c'est-à-dire que s'ils ne payent pas, ils vont exposer les garants au risque d'être sommés en justice. Donc, ils ne veulent pas exposer les garants à ces risques, ce serait déshonorant pour eux de laisser retomber les conséquences de leur déni sur les épaules des tiers qui sont les plus éloignés de la Bella. Donc, à mon sens, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée. Est-il conforme, d'autre part, à ma dignité de faire valoir mes droits en lui épargnant l'ignominie extrême? Vous vous souvenez, épargner de ce mot, il vaut mieux épargner quelqu'un qu'on peut égorger plutôt que le contraire. Donc, vous voyez ce principe ici en action. Mais après, il dit, soit Atticus assez bon pour me donner ton avis sur tout cela, je ne doute pas que tu ne conduises les choses avec tous les ménagements convenables, c'est-à-dire, peut-être la traduction n'est pas parfaite, mais ça veut dire, je t'ai donné mon avis, je suis sûr, tu vas me donner un avis très, très différent, tu vas être plus doux que moi, donc j'attends ton idée. Alors, le lexique, nous l'avons déjà remarqué, mérite quelques remarques. On peut revenir ici. Si la conduite de Dolabella n'avait pas été très déloyale, déjà en termes moral, peut-être douterais-je encore si je dois être plus rémissif avec lui ou le poursuivre avec toute la rigueur du droit. Donc ici, l'opposition est entre le mot rémissior, ici, un peu petit, et summo iure contendere, donc agir selon toute la rigueur du droit. Donc nous sommes toujours pris dans deux possibilités. Donc il y a la voie de droit avec toute sa rigueur, ou plutôt une attitude qui, disons, s'écarte et renonce un peu à faire valoir dans son entièreté notre droit. Et je pense que l'adjectif remissio ici exprime très bien un terme grec qu'on a beaucoup de mal à être expliqué, mais sur lequel peut-être on va organiser un séminaire dans les mois à venir, qui s'appelle epieikeia. Donc epieikeia, c'est l'idée de laisser quelque chose de côté. Donc être. Mais vous voyez, on a toujours du mal à comprendre ce mot parce que d'abord parce qu'il y a une confusion avec le mot équité latin et des langues romanes, mais aussi parce qu'on demande toujours aux magistrats d'être plus rémissifs. C'est pas comme ça que l'épieikeia fonctionne. Parce que s'il y a un procès et un magistrat n'utilise pas toute la rigueur du droit, il fait un tort à quelqu'un. Parce qu'il y a toujours deux parties, plus ou moins directement impliquées dans un conflit. Donc si je suis, si j'emploie de la miséricorde envers l'une des parties, mais il y a le risque que je fasse tort à l'autre partie. Alors c'est bien plus moral dans ce contexte, parce que Cicéron et les créanciers il peut, en toute sérénité, renoncer à une partie de son droit et ne pas aller jusqu'au bout. Bon. Je vous ai présenté l'ensemble de cette stratégie. Vous souhaiterez savoir quelle est... oui, je sais. On n'en sait rien. Parce que celle-ci, mais c'est dramatique. Je trouve la chose la plus dramatique, c'est que cette lettre est la dernière de la correspondance entre Cicéron et Atticus. Donc, fin de l'histoire. Mais quel sera le sort de deux hommes? Cicéron et Dolabella mourront presque au même moment, l'année qui suivit cette lettre, en 43 avant Jésus-Christ. Mais Dolabella mourra après avoir commis l'énième trahison. Quand enfermé dans une ville assiégée en Grèce, l'un de ses arricides, Gaius Trebonius, lui envoie des provisions. Donc un acte vraiment de grande générosité de la part de Gaius Trebonius. Qu'est-ce que fait Dolabella ? Lui tend alors en piège et les fait exécuter. Donc ce n'est pas quelqu'un qui était rémissior comme Cicéron. En revanche, dans les mêmes mois, en plus de combattre avec un courage inlassable avec Marc-Antoine et par les Philippiques, Cicéron écrit le « Deophikis ». Alors, sa stature morale et intellectuelle est donc gigantesque, à mon sens. Et son souci que nous avons vu ici de ne pas briser les apparences dans l'affaire de Dolabella, avec Dolabella, ne diminue pas cette stature. Rappelons-le encore, Cicéron écrit dans ces mêmes jours dramatiques les Deophikis, l'éloge le plus élevé des liens qui sont à la base des hiérarchies sociales, qui sont à l'origine de la raison du devoir suprême, comme il l'appelle, la ratio summi offici, et ne pas respecter les devoirs qui découlent de cette raison du devoir suprême, c'est, selon Cicéron, heurter la conscience publique. Et dans ce traité, il théorise aussi, comme nous le lisons là, s'il est convenable de donner avec libéralité, il ne l'est pas moins de demander ce qui nous est dû sans dureté, sans être aigre. C'est l'idée de quelque chose qui est amer, aigre, aigu. Donc il ne faut pas être... aigre lorsqu'on demande ce qui nous est doux. Dans toute espèce de contrat, dans les ventes et les achats, en donnant ou en prenant loyer, avec les propriétaires de maisons ou des terres voisines, il faut se montrer équitable et accommodant. Céder assez de ses droits, les pièces qu'il y a. Céder assez de ses droits à beaucoup de personnes, avoir pour le procès toute l'aversion qu'ils doivent inspirer, les procès. Et je crois même un peu plus encore. Nous vivons dans une société qui aime beaucoup les procès. Venons-en maintenant aux juristes. On pourrait, et nous allons terminer assez rapidement, on pourrait penser que leur position est celle de ceux qui incarnent précisément le summumius, le droit dans toute sa rigueur, et qu'il constitue en somme un aspect presque opposé aux précautions de Cicéron. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Voici un texte écrit par un juriste vivant au IIe siècle après Jésus-Christ, Gaius. « Si, pour me faire injure, mon créancier a interpellé mes garants, quand j'étais prêt à les payer, il est tenu de l'action d'injure. » Donc vous voyez, ce n'est pas seulement un principe moral, il y a une protection juridique. Alors, Gaius écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, à peu près quand Quintilien ou un élève de Quintilien, on ne sait pas si ce sont vraiment des déclamations qui ont été écrites par Quintilien lui-même ou par son école. Donc, c'était le principe que nous avons déjà lu. Et à peu près dans les mêmes décennies, Gaius explique que s'adresser directement au garant, si les débiteurs étaient solvables, c'était une offense au sens technique, un délit, le délit d'ignorie. Certes, dans le cas de Dolabella, contrairement au cas pris en considération par Gaius, on ne peut pas dire qu'il était prêt à payer. Et pourtant, il est vrai aussi, nous l'avons dit, qu'il était parti pour la Syrie en mission officielle, et même s'il n'était pas prêt à payer, s'en prendre à ses garants aurait pu sembler effectivement une offense. Donc nous avons ici une situation où droit et attente sociale coïncident presque, car il y a ici une figure, une institution qui permet de les faire coïncider, qui est celle des ignoriés, de ce délit, entendu comme offense. Alors, il est évident qu'on évalue s'il y a eu ou moins offense en utilisant, en intégrant dans le, disons, l'évaluation du juge qui doit juger du délit des ignorés, les attentes sociales. Est-ce que, en brisant les attentes sociales, on t'a porté en préjudice, on t'a offensé? Alors, on voit ici quelques images qui nous rappellent le procès. Alors, peut-être c'est un peu compliqué à première vue, après vous comprendrez tout de suite. Il y a une image renfermée dans la même image. Donc là, vous voyez, il y a le profil d'une chaise curule avec les deux jambes. Et ici, vous avez le même profil dans le front de cette image. Et c'est une image d'un procès. Il y a là la cella curulis, il y a les parties qui sont auprès du siège du prêteur, du magistrat. Après, il y a d'autres personnages, peut-être le cortège du magistrat. Donc, c'est une scène qui nous parle d'un procès. Il n'y a pas beaucoup, hein, c'est assez étrange. Donc, vous voyez ici en détail avec la cella curulis et les parties qui sont près de la chaise. Ici, c'est une autre scène judiciaire et qui est un peu compliquée à disons, déchiffrer, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que le procès est toujours au centre de la cité. C'est-à-dire, il y a toujours un théâtre de la justice entouré des attentes sociales qui sont ici personnifiées par des gens qui assistent à un acte de procédure. On arrive à la fin par cet extrait. Je veux vous donner un dernier exemple de la façon dont le droit peut inclure les attentes sociales et instituer, pour revenir au sujet de notre cours de cette année, s'instituer en économie morale. Il s'agit d'un passage tiré du manuel d'Ulpien, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est le juriste auquel est dédié mon séminaire, consacré au rôle du curator rei publice, fonctionnaire attesté pour la première fois sous Domitien, et dont la tâche principale était la supervision des finances des cités de l'Empire. Dans un passage conservé dans le digeste, quand vous voyez ce nombre après le nom d'un juriste, il s'agit toujours du digeste de Justinien, c'est une anthologie qui comprend aussi les fragments des juristes. Alors, dans ce passage, Ulpien propose aux curateurs et aux gouverneurs de province des directives sur le comportement adopté vis-à-vis des débiteurs des sommes d'argent données à crédit par les cités. Donc le curator république était quelqu'un qui était un magistrat, qui, un fonctionnaire qui surveillait les finances, l'administration des villes, des cités. Donc le problème ici était comment demander l'argent lorsqu'on a, les villes ont fait des empreintes. Alors, si l'argent public est bien placé, il faut laisser les débiteurs en paix quant au capital. D'autant plus si l'argent produit des intérêts. S'il ne produit rien, le gouverneur... Donc première directive, il ne faut pas demander la restitution de l'argent. S'il y a des revenus réguliers, il vaut mieux le laisser dans les mains du créditeur, du créancier. Deuxième directive, s'il ne produit rien, le gouverneur de province doit se préoccuper de l'intégrité patrimoniale de la res publica. Donc, il faut qu'il récupère l'argent. En veillant toutefois à ne pas agir un collecteur pénible ou insultant, mais modéré et bienveillant avec efficacité, humain avec constance. En veillant toutefois à ne pas agir un exacteur aigre. Exacteur aigre. Car il y a une différence considérable entre l'insolence insoucieuse et la diligence sans excès. Alors, donc, le texte, je vous l'ai déjà expliqué, fait référence à la pratique des cités, la pratique de prêt des cités aux particuliers. On la connaît par un statut municipal espagnol, l'ex Hernitana. Et donc, il y a un niveau économique dans ce type de directives que Ulpien donne aux fonctionnaires. D'abord, quelque chose que pour nous, c'est plutôt de l'économie, donc il faut veiller à qu'il y ait des revenus réguliers. Deuxièmement, il faut veiller à l'intégrité patrimoniale. Donc, il ne faut pas laisser l'argent infructueux ou chez des débiteurs qui ne sont pas sûrs. Mais il y a aussi des directives d'un autre type qui sont pour nous morales. Face au droit du créancier, de la cité elle-même, d'exiger la restitution du prêt, en cas d'inexécution, Ulpien recommande d'exercer le recouvrement de manière à renoncer à faire valoir au fond le droit au crédit. Donc c'est l'idée de benignitas, benignum. Et il faut adopter une façon humaine. Vous avez déjà rencontré aujourd'hui ce terme. Quand je vous disais, c'est l'idée d'une certaine aisance dans les rapports avec autrui, une générosité pas seulement de cœur, mais aussi d'actes et de façon de se porter. Et ce qui frappe l'attention, c'est que dans ce texte de Cicéron, De Officiis, on trouve à peu près les mêmes mots. Inexigendo non acerbum, qu'Ulpien utilise presque, disons, à la lettre, avec un petit changement, non acerbum exactorem. Exigere et exactorem, c'est le verbe et le substantif. Donc c'est exactement la même locution dans un contexte où il y a vraiment le même principe qui est exprimé. Et dernier point de proximité, alors ce traité s'appelle De officio curatoris rei publicae, sur les devoirs du curateur de la République, et le traité de Cicéron s'appelle De officiis, en général des devoirs. Donc vous voyez, quand Ulpien écrit ce texte, il a à l'esprit le traité de Cicéron. Et c'est extraordinaire, si vous le pensez, parce que c'est une façon d'intégrer dans le droit un discours qui, à l'origine, était un discours de philosophie morale, mais de l'intégrer dans le droit, parce que dans ce cas, là, ce n'est pas seulement un principe philosophique un peu générique, mais c'est un avis, une opinion, c'est une directive que Ulpien donne aux fonctionnaires et même aux gouverneurs de province. Donc c'est intégré dans les droits. C'est une façon, c'est la façon la plus correcte de se porter dans une affaire pécuniaire. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui vu comment les attentes sociales interfèrent et encadrent le droit romain. Et avec ce dernier document, nous avons vu peut-être même quelque chose de plus que normalement on ne voit pas, c'est que le droit se transforme lui-même en philosophie morale et, utilisons encore une fois le concept, en économie morale. Là où, pour nous, ce sont des critères économiques, financiers, d'argent, d'intérêt qui l'emportent, pour eux, ce sont ces mots que nous avons vus. Il ne faut pas être aigre, il faut être humain. Je vous remercie de votre attention. Thank you.